Les voix du livre. Une émission proposée par Éline Séjot de la librairie du Cyprès Jean de la Lune à Nevers et Claire Garand, biographe chez mémorialiste.fr. Vous êtes bien sur BAC FM. Bonjour à tous. Alors nous accueillons aujourd'hui Michaël Boudard, professeur de lettres-histoire au lycée Pierre Bérégovoy de Nevers et chargé de mission aux archives départementales de la Nièvre, historien qui vient de publier aux éditions du Souvenir français « La Nièvre et ses prisonniers de guerre », le premier volume. Bonjour Michaël.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. N'hésitez pas à intervenir tout au long de cette émission, hein, qui va commencer, comme d'habitude, par les propositions de la librairie du Cyprès Jean de la Lune, qui, je le rappelle, a fait peau neuve, et c'est le cas de le dire, parce que Jean de la Lune est passé du vert près à un magnifique jaune citron. Donc, des suggestions de lecture qui grattent un peu et qui font réfléchir. Alors, Éline Séjot, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais est en direct par téléphone. Bonjour Éline.
Bonjour Claire, ravie de vous retrouver.
Alors vous êtes en direct d'Istanbul, je crois.
C'est ça, tout à fait. En compagnie d'Orhan Pamuk, excusez du peu. Hein.
Oui, là je crois que vous êtes en très très bonne compagnie. Alors, qu'est-ce que vous nous suggérez pour nous sortir de notre petite zone de confort?
Alors, je vous conseille La femme aux cheveux roux, d'Orhan Pamuk, écrivain turc, qui est paru en février chez Gallimard. Et je pèse mes mots en vous disant que c'est un roman magistral. Vraiment, qui embrasse des genres, des questions très différentes. C'est un roman de formation, d'amour, à suspense, une fable sociale, mais aussi et surtout pour moi, je trouve, une grande tragédie moderne.
Ah bah dis donc, rien que ça.
Rien que ça. Non, mais vraiment, ça m'a tout à fait enthousiasmée. Pour vous situer un petit peu le récit, je ne peux pas trop en dire parce qu'on est vraiment tenu en haleine jusqu'aux dernières pages. Ça débute au milieu des années 80 et le père d'un jeune lycéen, Sen, quitte le domicile familial. Donc pour subvenir aux besoins de la famille et payer ses cours pour rentrer à l'université, le jeune garçon accepte de travailler comme apprenti auprès d'un maître puisatier le temps d'un été.
Ah, un puisatier.
Très vite. Mmh. Oui, oui. Et d'ailleurs, ça donne des pages très intéressantes. Il nous décrit vraiment, il campe bien le décor, il nous explique comment forer un puits. Donc
ah oui.
Un peu expert à la matière maintenant.
D'accord, donc on apprend des choses en plus.
On apprend beaucoup de choses. Il faut vraiment le temps de planter bien le récit et on découvre comment cette relation entre le maître et l'élève va devenir une relation père-fils. Que la figure paternelle est vraiment un élément central de ce roman, mais pas que, puisqu'il y a l'amour aussi. Et cette hypnotique femme aux cheveux roux croisée un soir, qui va totalement l'obséder, non pas que le temps d'un été, mais aussi toute sa vie.
Ah oui.
Et après, donc, ce temps auprès de son maître puisatier, on le retrouve 30 ans plus tard.
Ah oui, c'est un saut dans le temps.
Tout à fait. Et ses affaires immobilières donc, sont florissantes, il acquiert une certaine richesse. Et il nourrit une passion assez étonnante pour l'Oedipe de Sophocle, donc ce patricide qui ne savait pas en tuant son père que c'était son père, et pour l'histoire donc, que j'ignorais totalement de Rostam et Sohrab, qui sont des héros d'un grand livre iranien, le Shah Nameh. Alors je ne suis pas très forte en prononciation, vous corrigez, où cette fois c'est le père qui tue son fils sans l'avoir reconnu. Donc ce sont.
Ah oui, c'est l'inverse en fait, c'est l'inverse
d'Oedipe. C'est l'inverse,
d'accord.
Oui, c'est le pensant d'Oedipe. Et donc, ce sont des centres d'intérêt assez particuliers, vous me direz, mais qui prennent toute leur place dans ce roman, hein, qui questionnent aussi le remords, le destin, la culpabilité. Et on retrouve tous les thèmes chers à Pamuk, le portrait de la société stambouliote et turque, le contraste entre la tradition, la modernité, le déchirement entre l'Occident et l'Orient.
Ouf, mais dis donc, mais c'est énormément
c'est
de thématiques. Il fait combien? Il fait 1000 pages, ce roman?
Seulement 300.
Et là, seulement 300.
Avec seulement 300 pages et 3 parties. Et la dernière partie, c'est un rebondissement... étonnant, c'est superbe. Jetez-vous, ruez-vous vraiment sur La femme aux cheveux roux, c'est extraordinaire.
D'accord, bah, en tout cas ça donne vraiment envie, surtout que vous nous parlez d'un rebondissement final dont bien évidemment il ne faut surtout rien nous dire, mais
oui, ça
fait encore plus envie. Donc La femme aux cheveux roux, roux ou rouge? C'est aux cheveux roux, d'accord, oui. Donc tout un programme sur de très nombreuses décennies. Hein. Donc là on est plongé dans...
Il nous ramène aussi dans l'histoire de la Turquie. Dans l'histoire ottomane aussi, perse, iranienne. Donc on voyage totalement. Hein. Et on est entre contes, légendes, récits.
Ah oui,
magistral.
D'accord. Donc oui, magistral. Et alors donc, je crois que vous nous emmenez également à Hollywood.
Oui, après, alors là, après je prends la Turquie. Le jet tout de suite pour partir.
C'est pratique de ne pas être sur place, en fait. Ça donne des avantages.
Alors ici, en direct d'Hollywood, je vous présente Hollywood Menteur,
oui.
Qui est une BD de Luz. donc ancien collaborateur de Charlie Hebdo, qui est paru ce mois-ci chez Futuropolis et qui est postfacé par Virginie Despentes.
Ah oui, donc on est dans un univers qui n'a rien à voir.
Non, là on change direct catégoriquement de cap et on part sur le tournage de The Misfit, donc qui est un film de John Huston qui a été tourné en 60. C'est un scénario de Arthur Miller et qui malheureusement est devenu légendaire. Non, le tournage fut catastrophique.
Oui, c'est vrai qu'il est connu à la fois pour la qualité du film, mais aussi pour la très mauvaise qualité du tournage.
Oui, c'est ça, du tournage. Et oui. C'est étonnant comme avec un trait un peu urgent, avec des cases assez peu nombreuses et un trait en noir et blanc, lui, il arrive à redonner corps et forme à Montgomery Clift, à Marilyn Monroe. On voit un monde s'écrouler devant nous, parce que c'est ça finalement, c'est la fin d'un règne.
Et la fin d'un rêve aussi, film, peut-être.
Et d'un rêve. Dans le film, sont mis en scène trois personnages masculins, plus une femme.
Oui.
Ils sont, à l'instar des personnages qui les incarnent, totalement perdus. Oui. On a ces cow-boys, finalement, qui n'ont plus rien à voir à faire aux États-Unis. On a cette jeune femme divorcée qui, à l'époque du tournage, Marilyn Monroe, donc, qui incarnait une jeune divorcée, était en train de se séparer d'Arthur Miller.
Oui.
Elle mourra quelques temps plus tard. Clark Gable, qui ne supportait pas Marilyn Monroe, mourra quelques jours seulement après le tournage. On a l'impression que tout s'abat sur ce film. Et c'est vraiment le portrait d'êtres cassés qui ont été rassemblés là, on dirait, pour un ultime tour de piste.
Oui, c'est d'autant plus intéressant que, d'après ce que vous dites, il y a des rappels, dans le réel, des échos entre le réel et le film.
On voit vraiment comment Marilyn aussi a hésité à prendre ce rôle, tant il était basé sur sa propre vie.
Oui, effectivement.
Et ce qui est étonnant, c'est ce que dit Luz aussi, c'est que la couverture du livre, c'est Marilyn qui est plantée au milieu du désert et qui crie sa colère.
Une image rare.
Oui, et ça n'existe pas. Il n'y a pas de photo, il a enquêté pendant des années, parce qu'avant, ces planches ont été publiées dans les cahiers du cinéma. Il n'y a aucune photo de Marilyn en colère. Prise, qui pleure, mais jamais en colère. Et là, ce plan est en travelling arrière. Donc finalement, plus elle est en colère, plus la caméra s'éloigne, comme par craindre. Par avoir peur de cette actrice qui finalement se consume à cause d'Hollywood et a envie de crier sa colère et son désespoir. Mais ça, on ne peut pas l'entendre.
Oui, ben non, bien sûr, une icône glamour, on n'a pas envie de la montrer en colère et déprimée. Et... ou... Oui, dis donc, ça a l'air d'être puissant.
Avec son homosexualité, avec ses médicaments, avec... Oui. C'est drôle aussi. Hein.
Il y a des vous faites bien de le dire, parce que là, comme ça, on ne s'en serait pas tout à fait douté.
Clark Gable, avec son scotch, et Santiago, venu d'un autre temps, c'est assez... Les producteurs, c'est drôle, mais c'est aussi très mélancolique. Et qu'on aime la BD ou pas, qu'on soit cinéphile ou non, c'est vraiment le portrait de ces personnages qui est vraiment très sensible et qui, je pense, mérite une attention particulière.
Et donc, c'est l'humain qui l'emporte sur tout le reste, finalement.
Ouais. Finalement, là, c'est plutôt le cinéma qui a gagné. Malheureusement, sur ces personnages qu'il a fracassé, en fait.
Oui, alors c'est moyennement gay, quand même. Hein.
C'est moyennement gay, mais c'est très intéressant.
D'accord.
Oui. À la fin, ils meurent tous, hein, c'est sûr. Ça, là, c'est
bon, voilà, vous avez dévoilé la fin, zut, alors.
J'ai spoilé. Excusez-moi de vous l'avoir appris aujourd'hui.
Non, mais on sait bien que tout ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est pas seulement d'avoir la fin, mais de savoir comment on y vient.
Donc, ah oui, j'ai appris plein de choses.
Oui. Enfin, merci beaucoup pour ces conseils de lecture qui, effectivement, je savais que ce seraient encore des conseils de lecture originaux et toujours un petit peu qui vous titillent. Mais là, je pense que on fait le grand écart dans les sentiments, finalement, les émotions.
C'est toujours mais par contre, elle est toujours dans l'émotion et la recherche, finalement, de son destin, de sa liberté et de sa propre individualité dans les deux cas.
Tout un programme.
Oui, n'est-ce pas? Oui. S'il vous plaît, en tout cas.
Ah bah si, moi j'aime bien. Ça me paraît intéressant, la liberté, tout ça, même si ça,
même si ça
coûte. Eh ben, merci beaucoup, Éline, pour ces suggestions. Et puis, écoutez, on vous laisse rentrer tranquillement dans votre jet privé en première classe avec champagne à Nevers, dans l'aéroport international de Nevers. Oui, voilà. À bientôt.
À très bientôt, Claire.
Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, voilà, donc effectivement, les coups de cœur du Cyprès nous ont entraînés dans des contrées inattendues, mais je crois que vous avez, vous, un coup de cœur à nous proposer, Michael, qui est aussi dans une contrée différente. On parlait de liberté, vous allez nous parler de résistance.
Oui, tout à fait. J'ai découvert assez récemment Le dictionnaire amoureux de la résistance, écrit par Gilles Perrault. C'est un ouvrage qui est sorti il y a maintenant 5 ans à peu près, et on me l'a offert récemment. Et j'ai découvert quelque chose d'intéressant, parce qu'il n'y a pas que des biographies. Et il y a des entrées tout à fait étonnantes sur la peur, la mort, bien évidemment, la répression.
Et vous m'avez dit l'amour aussi.
La notion de liberté, il peut y avoir l'amour.
Ce qui est inattendu dans un dictionnaire de la résistance.
Inattendu, tout à fait. Donc il y a vraiment des thématiques très étonnantes, et puis un passage très surprenant que j'ai relevé. Ça s'appelle On se fait toujours pincer, et donc c'est dans la lettre O, bien évidemment, et c'est intéressant parce que c'est l'un des plus grands espions français de la Deuxième Guerre mondiale, le colonel Rémy. Enfin, il n'était pas encore colonel, mais celui qu'on appelait Rémy, qui rencontre le général de Gaulle avant de repartir en France, et il retransmet ainsi cette rencontre en disant: alors, vous allez repartir, Rémy? Et Rémy répond: bien oui, mon général. Eh bien, vous allez vous faire pincer. Et Rémy répond: j'espère bien que non. Et la réponse de Gaulle: mais si, on se fait toujours pincer dans ce métier-là. Donc c'est déjà assez savoureux. Et paraît-il qu'il a fait aussi cette autre formulation à d'autres espions qui prenaient des risques insensés, parce qu'il faut quand même se remettre dans l'époque. Et quand ces espions revenaient à Londres, il a souvent dit: ah, vous voilà, eh bien on peut dire que vous avez mis le temps. Ce qui quand même ne manque pas de saveur de sa part.
Oui, il avait un humour un peu pincant rire.
Un peu pincant rire, exactement.
Voilà, on se fait toujours pincer, mais sans rire avec le général de Gaulle. Une personnalité plus que forte, je crois. Donc à retrouver dans
ce dictionnaire amoureux de la résistance de Gilles Perrault.
Exactement. Donc aux éditions Plomb et Fayard. Eh bien, avant de passer à la suite, nous allons écouter une musique que vous avez choisie. Il s'agit de, vous pouvez nous la présenter?
Alors, Mike Oldfield, Moonlight Shadow.
Voilà, Moonlight Shadow avec la voix de Maggie Reilly. Donc, on écoute la voix cristalline de Maggie Reilly.
Cause
Alors, c'était donc Moonlight Shadow de Michael Field. Alors, je vous avoue que pour moi, c'est un peu un gros coup de nostalgie parce que sorti en 1983, j'écoutais ça quand j'avais 10 ans. J'avais beaucoup aimé, j'adorais sa voix. Je trouvais qu'elle avait une voix superbe.
Magnifique, oui.
Et je croyais d'ailleurs que c'était elle qui avait composé la chanson, bien sûr, parce que j'ai appris beaucoup plus tard avec... beaucoup de déception que ça n'était pas elle.
Non.
Alors, comment vous avez choisi cette chanson ?
Alors, parce que, en fait, j'ai été baigné dans mon enfance par Michael Field, parce que mon père adorait Michael Field. Donc, il avait plus exactement tous les CD. Il adorait la musique... il l'adore toujours d'ailleurs, dit électronique et synthétiseur. Donc j'ai été baigné dans mon enfance par Michael Field, par Vangelis, par Jean-Michel Jarre. Donc voilà, c'était peu un retour aux sources comme ça en choisissant Moonlight Shadow.
Des musiques un peu planantes,
voilà,
des
exactement.
Nappes musicales, d'accord. Alors nous allons revenir dans le présent après Michael Field et les années 83 avec une très belle actualité du livre ce mois-ci, puisqu'on démarre très fort avec à la librairie Le Millefeuille de Clamcy, je sais que vous êtes Clamcy-quois.
Exactement.
Donc, je suis allée voir ce qu'il faisait un petit peu là-bas. Une rencontre avec Denis Grozdanovic pour un ouvrage un petit peu spécialisé et très intéressant, Dandy et excentrique, les vertiges de la singularité, qui vient de paraître aux éditions Grasset et Fasquelle. Donc une rencontre particulièrement intéressante sous donc le signe de la singularité. Toujours le 4 mai, de 10h à 19h, alors là ce sera à Nevers, Nancy Adjé sera en dédicace à la FNAC pour son roman jeunesse de fantasy, Les Chroniques d'Aurora, aux éditions Sud-Arène. Et dans un genre tout à fait différent, aux Forges Royales de Guérigny, alors un bel événement, le 9 mai, La Tête à l'envers, donc les éditions La Tête à l'envers, et l'association Libre à lire, vous savez, c'est une association qui lit des œuvres à voix haute, avec un accompagnement musical par Chorus, K-O-R-U-S, je précise. Ces trois partenaires se sont associés pour proposer une très belle soirée littéraire et musicale autour du poète Georges Séphéris, le grand poète grec. Donc, à 20h30, au Forge Royal de Guérigny, le 9 mai. Et le 18 mai, à la FNAC de Nevers, sera accueillie de 15h30 à 17h30. Alors, faut pas rater le coche parce que c'est vraiment bref. Elle fait juste un aller-retour. C'est Anne-Gaëlle Huon qui a beaucoup de succès en ce moment, qui écrit des romans. Vous savez, on appelle ça des feel good. Ça met de bonne humeur, voilà. Donc, en bon français, des feel good. Elle viendra dédicacer Même les méchants rêvent d'amour, qui est paru chez Albin Michel. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est que les héroïnes, une fois n'est pas coutume, sont des personnes âgées. Donc, c'est pas si fréquent.
Oui.
Voilà, d'habitude, on met plutôt des héroïnes plus jeunes. Et d'ailleurs, nous ferons une interview spéciale de cette autrice, Anne-Gaëlle Huon. On va essayer de trouver 5 minutes pour qu'elle accepte de répondre à nos questions. Et puis, du 24 au 26 mai, il y aura le Salon du Livre de Cône-sur-Loire, donc bien sûr à ne pas manquer. Et pendant ce salon, mais à Nevers, donc il se passe des choses partout dans la Nièvre, il faut être partout, le 25 mai, la librairie Jean de la Lune, donc je disais tout à l'heure qu'elle avait fait peau neuve, a décidé de frapper très fort, parce qu'ils ont invité Benjamin Lacombe, donc qui est illustrateur et auteur de BD jeunesse et adulte, je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
En général, les enfants connaissent bien. C'est un univers graphique très original. Alors, c'est une rencontre à ne pas manquer. Benjamin Lacombe, c'est une rareté de le voir. La librairie a réussi à le convaincre et il faut les en remercier. Voilà donc pour les actualités et les sorties du mois. Alors, ce mois-ci, il n'aura échappé à personne que samedi dernier était la journée des libraires indépendants. Et pour cette occasion, Antoine Gavory était venu dédicacer son dernier ouvrage. C'est un essai qui vient juste de sortir avec une très belle préface d'Alain Rey. Il s'intitule « Rendez-nous Sacha Guitry ». Donc évidemment, c'est sur Sacha Guitry. Il est publié par les éditions Ovadia. Et en fait, il paraît officiellement ce lundi 29 avril. Donc c'était c'était anticipé. Vient de paraître également Viré, journal d'une chômeuse incasable, enquête d'un job illusoire. Un beau programme de Fabienne Desseux aux éditions de Boré. Alors, je n'ai lu que moi que le premier volume, et là, il s'agit d'une édition des deux. Les deux volumes sont publiés en un seul volume, justement. C'est l'édition de l'ensemble de ses chroniques sur les réseaux sociaux. Alors, il faut s'accrocher, c'est du caustique, hein, c'est drôle, c'est mordant, avec une très belle couverture dessinée par Kent. Et alors, dans un style, mais qui n'a rien à voir, qui est plus historique, peut-être plus proche de vos préoccupations, les éditions du Chemin de Fer viennent de publier un ouvrage qui s'intitule « Martin de Tours ». Alors, c'est pas vraiment historique, c'est un texte de Mina Sungern qui s'est interrogée sur la légende bien connue hein, du soldat romain Martin qui avait partagé son manteau avec un mendiant. Et elle s'était demandé comment rendre compte d'événements, alors je cite, « à la véracité desquels je ne crois pas ». C'est pas évident. Je ne résiste pas d'ailleurs au plaisir de vous lire un bref passage. Donc en fait, ça arrive juste après que le soldat a coupé le manteau en deux. Je cite, « Il entendit une moitié au mendiant qui s'en empara, remerciant, courbant la tête, faisant de nouvelles révérences et pensant par devers lui, pourquoi cet idiot ne me donne-t-il pas son manteau en entier? Que va-t-il faire d'une moitié de manteau ?» Donc voilà, ça vous donne un petit peu le ton. Il s'est illustré par des illustrations qui sont assez étonnantes, hein, à la fois anguleuses et coulées, de Frédéric Lutz. Alors Frédéric, au féminin, c'est une femme de Frédéric Lutz. Donc voilà, un ouvrage qui est... c'est vraiment un très bel ouvrage à lire autant qu'à regarder. Mais c'est une... la question de savoir ce qu'on va faire d'une moitié de manteau ne doit pas beaucoup inquiéter le valeureux et extraordinaire héros de bande dessinée qu'est Guy Lefranc. Je ne sais pas si vous connaissez Guy Lefranc.
Ça vous dit vaguement quelque chose.
Alors lui, il coupe pas son manteau en deux, mais il revient pour le 30e épisode de ses aventures. Lefranc, c'est ce journaliste, vous savez, qui est confronté à des mystères, à des espions. C'est une bande dessinée.
D'accord.
Oui. Et donc c'est le 30e. Donc c'est un chiffre rond, qui est dessiné par la belle ligne claire de Christophe Alves, qui est un illustrateur et dessinateur nivernais, qui viendra le dédicacer au Cyprès. Le scénario est de François Corteggiani et les couleurs de Bonaventure. Alors moi je dévorais la BD quand j'étais enfant, hein. J'en ai encore quelques-uns dans ma bibliothèque. Je vais peut-être me laisser tenter par cette nouvelle aventure de Lefranc. Je ne sais pas, je vais voir. Je vais regarder la couverture déjà. Et pour terminer, un petit signe aux éditions nivernaises La Tête à l'envers, parce que leur dernière publication, Mémoires inconnues, de Cécile Oumani, est en lice, alors ils ne l'ont pas encore, mais en lice pour le très prestigieux prix Mallarmé, qui est un prix de poésie. Et c'est une reconnaissance bien méritée, donc on croise les doigts. Et nous recevrons d'ailleurs la directrice de ces éditions, Dominique Sierra, le mois prochain dans les Voix du Livre. Mais tout de suite, eh bien, nous allons écouter le deuxième morceau de musique que vous avez choisi.
Oui.
Et cette fois, donc, ça n'est plus Michael Field. Qu'est-ce que c'est ?
Non, mais on reste en Angleterre, Royaume-Uni, avec The Corrs, qui est le titre « Forgiven, Not Forgotten ».
Alors, c'est parti pour « Forgiven, Not Forgotten ».
You're not forgotten. But not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're not forgotten. She goes searching for the man long forgiven, but not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven. You're not forgotten. No, you're not forgotten.
C'est un morceau très calme, hein, oui. Plus que le Michael Field, mais planant aussi.
Eh bien, oui, c'est aussi pour ça que j'avais choisi. J'avais adoré, je l'ai écouté un nombre de fois incalculable. Bon, il commence un petit peu à dater aussi, ce disque, mais j'avais vraiment beaucoup apprécié ce groupe. Familial en quelque sorte, The Corrs, et voilà, leur mélodie me plaisait particulièrement. Alors voilà, ça a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, mais j'ai toujours plaisir à l'écouter de temps en temps.
Vous avez usé le CD.
En quelque sorte, voilà.
D'accord. Alors, Michael Woodard, vous êtes l'auteur de nombreux articles sur l'histoire du Nivernais, sur les grands hommes de la Nièvre. Je ne sais pas s'il y a des femmes.
Je n'en ai pas. Oh, il y en a forcément, mais je ne les ai pas étudiées. Ou alors le prisme de leur mari, éventuellement.
Voilà. Éventuellement, vous pourrez essayer de voir s'il y a des femmes intéressantes sur lesquelles écrire. Vous avez écrit sur Claude Tillier, sur Romain Rolland,
oui,
sur Jules Renard, sur Clamcy aussi d'ailleurs.
Sur Clamcy, oui, d'où je suis originaire.
Et vous êtes membre de plusieurs sociétés savantes. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais vous êtes membre du conseil d'administration de la Société académique du Nivernais,
mmh, tout à fait.
Du conseil scientifique des Amis du Vieux Guérigny.
Mmh.
Vous êtes aussi adhérent à la Société scientifique et artistique de Clamcy, mmh,
tout à fait.
À l'ARORM, musée de la résistance de Saint-Brisson, et à la Fondation pour la mémoire de la déportation. Et vous venez de publier un ouvrage qui s'intitule « La Nièvre et ses prisonniers de guerre, 1940-1945, tome 1 », donc 1940, l'année terrible, aux éditions du Souvenir français. Et alors, moi, je vais vous dire, j'ai été surprise parce que c'est un ouvrage qui se lit tout seul. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu plus... Je me suis dit, bon, il faut que je me prépare. Eh bien, en fait, pas tant que ça, parce que, en particulier, la deuxième partie nous plonge directement dans le quotidien des soldats.
Oui, tout à fait.
Ceux qui travaillent, ceux qui cherchent à s'évader.
Oui, beaucoup.
Beaucoup. Mais aussi ceux qui... Et alors là, attention, c'est vraiment étonnant. Moi, j'étais ravie de voir. En plus, on voit, il y a des illustrations. Ceux qui créent une compagnie théâtrale dans le camp. Alors, ouais. On pense tout de suite au Verfugbar, aux enfers de Germaine Tillion, mais là, c'est différent. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors, oui, parce qu'il y a un camp de prisonniers de guerre a été ouvert dans la Nièvre. C'est celui qu'on a appelé le Frontstalag 154, donc il était à Fourchambault. Alors, en plus exactement, la limite entre Fourchambault et Garchisy, mais plus sur la commune de Garchisy, en fait. Et c'est dans ce camp, il y a eu des milliers de prisonniers, au maximum, plus exactement, 18 000 durant l'été 40.
Oui, c'est pas mal.
Et c'est pas rien. Et il y a eu à la fois des prisonniers qui pouvaient être de la Nièvre, mais évidemment, la plupart d'entre eux étaient originaires d'autres départements de la Nièvre, et même beaucoup, par la suite, d'outre-mer. Toutes les colonies françaises, qu'elles soient d'Afrique du Nord, d'Afrique noire et d'Indochine, qu'on oublie trop souvent, ont eu des hommes qui sont passés par la Nièvre. Ils s'en seraient sans doute passés, justement, de venir jusqu'ici, un petit peu perdus au milieu de nulle part. Et on peut comprendre leurs difficultés pour s'évader à ces hommes qui ne parlaient pas, évidemment, la plupart d'entre la langue française, et pour qui ça devait être très compliqué. Et donc, oui, dans ce camp, pour le coup, les Français ont créé une compagnie théâtrale pour passer le temps, et c'était vraiment et distraire leurs camarades, parce que l'ennui quand même était une des données majeures de ces camps. Les journées étaient longues, pour ceux qui n'avaient pas la chance de sortir, on va dire, un petit peu travailler à droite ou à gauche, ou de ne pas être détaché dans des fermes, ou surtout dans des fermes d'ailleurs en 1940, eh bien, les journées étaient très longues. Alors, on pouvait fumer, certes, mais aussi on pouvait aller voir un spectacle théâtral.
Voilà, c'est étonnant, parce que vous racontez que ça a eu beaucoup de succès.
Ça a eu beaucoup de succès. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que les prisonniers ont eu l'autorisation par les forces allemandes de sortir de ce camp. Donc, la troupe théâtrale est venue jouer à deux reprises, puisque la première, normalement, c'était fait pour une seule fois. Ils ont joué au petit théâtre, au théâtre, on va dire, d'ailleurs, de Nevers, une première fois. La semaine d'après, ils ont été de nouveau reconduits dans cette mission de distraire, cette fois-ci, les habitants de Nevers. Et au détour d'un article de presse, on trouve même qu'ils ont été emmenés jusqu'en Saône-et-Loire pour représenter leur pièce écrite dans le camp de Fourchambault.
Donc, c'est la gloire.
C'est la gloire, voilà, qui s'annonce pour eux.
C'est tout simplement inattendu. Et vous m'expliquez qui est aussi que, comme il n'y avait pas de femmes dans le camp, c'était eux.
Oui.
Qui jouait des rôles de femmes.
Exactement. Il y avait donc un travestissement de la part de certains hommes, parce qu'évidemment, écrire des pièces de théâtre de boulevard sans femmes, c'est quasiment impossible. Donc, évidemment, il fallait des hommes et des femmes. Et comme les femmes n'étaient évidemment pas là, et ben, c'était les hommes certains qui se travestissaient pour faire les rôles. Donc, c'était quelque chose d'assez surprenant et qu'on a vu beaucoup par la suite dans les stalags et aux flags, cette fois-ci en Allemagne, où on a beaucoup de documents, de photographies, on les voit sur des estrades déguisées pour représenter différents spectacles.
Et donc, comme vous le disiez, pour le représenter aussi pour les Nivernais.
Et ben voilà, exactement. Et, ça, et là, c'était la surprise, c'est qu'il soit sorti du camp de Fourchambault pour venir le représenter à deux reprises au théâtre de Nevers.
Donc voilà ce qu'on peut lire dans cet ouvrage. Donc vous voyez, ça n'est pas. Enfin, vous comprenez ma surprise. Je ne m'attendais pas.
Ah mais moi, je ne m'y attendais pas non plus. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé à travailler sur cette question des prisonniers de guerre, je ne m'attendais pas à trouver cela concernant les prisonniers de Fourchambault. Ça a été une belle surprise également.
Et vous évoquez aussi dans cet ouvrage l'aide qu'ils ont reçue de la part des Nivernais, les passeurs près du pont de Veurdre ou à Mars-sur-Allier, à la ligne de démarcation. Mm-hmm. Mais alors, je pense par exemple à quelque chose qui m'a un peu fait sourire, la ruse employée pour la bonne cause par la sœur Thérèse Lotz. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé?
Oui, alors, sœur Thérèse Lotz était donc une infirmière à l'hôpital de Nevers, et elle avait la particularité d'être d'origine alsacienne, donc elle parlait l'allemand. Et évidemment, elle s'est retrouvée assez rapidement en première ligne pour traduire évidemment les demandes des Allemands par rapport à l'hôpital et la Felle de Commandanture, et elle a joué un rôle non négligeable puisqu'elle a essayé d'appuyer les libérations de prisonniers et donc dans un ouvrage on raconte qu'elle a un jour un soldat allemand, un officier, lui demandait c'était en fin d'année ce qu'il pouvait lui offrir, elle lui a répondu écoutez, le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, ce serait de signer la réforme. Donc la réforme, c'est-à-dire en fait la libération de prisonniers de guerre de Fourchambault. Et devant tant d'insistance et sans doute surpris par cette demande, il a finalement autorisé plusieurs dizaines de prisonniers de guerre à rentrer chez eux et à signer ces réformes. Et cette femme remarquable, elle a commencé à résister dès 1940 hein, en aidant ces prisonniers de guerre et jusqu'à la fin, par la suite, elle aidera des résistants et elle meurt tragiquement des suites d'une complication, d'une opération juste avant la fin de la guerre. Elle voit à peine la libération en fait de l'Europe en quelque sorte, de la Nièvre, oui, mm-hmm. mais elle meurt donc en mai 1945. Voilà, c'est une histoire un peu tragique, mais une figure assez remarquable.
Ah oui, ça, là, c'est voilà encore une de mes surprises en lisant votre ouvrage. Et puis parce qu'on va de surprise en surprise, j'ai appris aussi qu'il y avait un petit mystère autour d'un personnage. Ben c'est pareil, que je n'imaginais pas dans la Nièvre et à la Charité-sur-Loire, Léopold Sédar Senghor, oui. Grand poète, écrivain, qui deviendra aussi le premier président du Sénégal. Il avait 34 ans à l'époque, alors on n'est pas trop sûr, mais de
oui,
quoi,
il y a une qu'est-ce petite, que c'est voilà, une petite incertitude, disons, pendant très longtemps, et lui-même l'avait raconté, qu'il avait été fait prisonnier dans la Nièvre, à la Charité-sur-Loire, où il y avait un camp de détention, donc c'était tout à fait possible. Un historien américain, qui Raphaël Scheck, qui a beaucoup travaillé sur les prisonniers de guerre, semble douter du fait qu'il ait vraiment été arrêté à la Charité sur Loire. Il a peut-être plus vraisemblablement est arrêté dans le Cher. Par contre, c'est tout à fait possible, et ça, Raphaël Scheck ne devait pas le savoir, comme il y avait un camp à la Charité, il a pu très bien être amené en fait à la Charité-sur-Loire et échapper de peu, parce qu'il faut le préciser, c'est lui qui le raconte, et échapper de peu à une exécution, puisqu'on sait que malheureusement, plusieurs milliers de prisonniers de guerre noirs ont été assassinés par les Allemands. Il y en a eu dans la Nièvre, malheureusement. Et il s'en est fallu de peu pour que Léopold Sédar Senghor soit passé par les armes également, donc le 20 juin 1940, à la Charité-sur-Loire, ou peut-être juste de l'autre côté. Mais en tout cas, voilà, il était à proximité immédiate de la Nièvre.
Oui, c'est d'une certaine manière un certain coup de chance.
Oui, c'est sur l'intervention, il a toujours raconté que c'était sur l'intervention d'un officier français, lui aussi prisonnier, qui a demandé aux soldats allemands de ne pas commettre cela. Ce serait ça qui aurait arrêté le massacre programmé, en quelque sorte. Donc voilà, c'est toujours ce qu'il a raconté.
Oui, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé.
Non,
mais bon,
voilà.
On a une petite idée.
Une petite
en tout
idée,
cas,
exactement.
En tout cas, il était tout près, il était dans les parages.
Exactement.
Je crois que l'écriture de ce livre n'a pas été de tout repos, les sources étant très dispersées.
Oui, très dispersées. Oui, on peut se promener beaucoup. Hein. J'ai été visiter les archives départementales du Puy-de-Dôme pour trouver des documents intéressants. J'ai été très souvent à Bourges parce qu'il y a également des sources intéressantes concernant l'immédiate après-guerre. Et puis, il y a eu beaucoup de choses, évidemment, sur les archives de la Nièvre et même la médiathèque de Nevers et puis la Côte d'Or, Lyon et beaucoup d'autres archives. Des particuliers aussi m'ont donné des pistes, des renseignements. Donc ça a été un travail de longue haleine avec des sources très variées.
Vous êtes un historien trotteur.
En quelque sorte. Et Internet m'a beaucoup aidé quand même pour gagner du temps, malgré tout. Il y a des fois, il faut se déplacer, hein, évidemment, mais il y a parfois, quand c'est vraiment trop loin et qu'on a au bout, j'allais dire, du film, ou plutôt au bout de l'écran, des gens sympathiques qui peuvent vous aider pour vous donner un ou deux petits renseignements, c'est quand même appréciable.
Et puis, vous avez eu un petit coup de chance aussi quand vous étiez en vacances.
Oui, j'étais en vacances et je travaillais un petit peu sur l'ordinateur et puis j'ai par une occurrence grâce à Internet, j'ai remonté la piste d'un homme qui avait à l'époque, c'était en 2017, qui avait 100 ans et s'il y a eu un article de presse, c'est parce que justement on fêtait son 100e anniversaire et on était il écrivait dans cet article que cet homme avait été prisonnier à Fourchambault, justement dans le camp dont on parlait tout à l'heure, dans le Front Stalag 154. Et donc, c'est peut-être l'un des tout derniers hommes à avoir vécu pendant plusieurs semaines là-bas. Et donc, j'ai pu le contacter grâce aux annuaires, tout simplement, rechercher son numéro de téléphone. Et j'ai pu le contacter et je lui ai envoyé mon livre l'année dernière. Et voilà, ça a été une belle rencontre parce qu'il m'a donné des renseignements qu'évidemment je n'aurais pas pu trouver dans les documents d'archives, et pour cause.
Mais, et donc vous aviez vu un article
voilà, tout simplement. On fêtait son 100e anniversaire. Il était toujours chez lui. D'ailleurs, il est jusqu'en fin d'année dernière, il était toujours chez lui également. Et donc j'avais repéré d'où il habitait, d'où il venait. Donc je me suis dit, tiens, alors comme c'est en Charente, ça faisait un petit peu loin, donc j'ai pas pu me déplacer pour aller le voir directement, mais par le téléphone, voilà, on a pu dialoguer à deux ou trois reprises comme ça.
Mais c'est pas facile d'être historien.
Non, c'est pas facile, mais il faut utiliser tous les moyens possibles.
Tous les moyens, y compris parfois des moyens auxquels on ne songerait pas. Par exemple, quand votre fille vous réveille un dimanche matin à 5h et ça fait naître en vous une idée.
Et voilà, exactement. Mais parfois, en étant réveillé tôt, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire en travaillant très tôt, et c'est vrai que quelque chose qui m'avait échappé pendant des semaines et même plusieurs mois, c'est bizarrement éclairé, voilà, quelques semaines. Donc un élément que je n'avais pas vu, que je ne mets pas dans le livre, et pour cause, parce que le livre était sorti. Et en reprenant un document, je me suis dit, mais oui, je suis vraiment bête de ne pas avoir compris la signature, plus exactement, d'une aquarelle qui a été faite au camp de Fourchambault. C'est un document absolument étonnant qui est disponible aux archives de la Nièvre.
Et c'est rare, une aquarelle.
Ah oui, c'est vraiment très très rare. On ne sait pas exactement par quel presque miracle elle est arrivée jusque là, mais dans les années 60 elle a été laissée aux archives départementales, et cette aquarelle, j'arrivais pas à lire le nom
rageant au bout d'un moment.
Ah oui, c'était un peu rageant, voilà, exactement. Et puis finalement j'ai compris qui était cet homme, et en faisant quelques recherches toujours sur internet, j'ai appris que ce prisonnier de guerre qui avait fait cette aquarelle était en fait de son métier décorateur de cinéma.
Ah oui, c'était pas n'importe qui.
Il avait fait beaucoup de films avant la guerre, il en fera d'autres après la guerre, puisqu'il reviendra de la guerre. Et voilà, ce monsieur qui était originaire du sud de la France, eh bien, lui aussi s'est retrouvé projeté, un peu perdu dans la Nièvre avant d'être envoyé de l'autre côté de la frontière française, donc côté allemand. Et voilà, pendant son séjour dans la Nièvre, il a fait sans doute peut-être d'autres aquarelles, mais une seule est restée en format à peu près 21-29-7, à peu près sur une feuille classique. Et on voit... Des soldats qui sont justement réformés par des médecins. Et sans doute, peut-être qu'il a croisé Sœur Thérèse Lotz, dont on parlait tout à l'heure. Il y a de fortes chances.
Et vous avez dû être absolument ravi à 5h du matin quand vous avez eu cette illumination.
Ah oui,
bon
tout
sang,
à fait.
Mais c'est bien,
voilà.
Sûr.
J'aurais dû me réveiller plus tôt avant. Voilà, exactement.
De l'intérêt d'être réveillé à 5h du matin. Donc, nous terminerons sur cette note historico-familiale qui réjouira tous les parents de jeunes enfants.
Oui, qui comprendront très bien ce que ça peut être.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Michaël Boudard, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Et moi, j'invite tous les auditeurs à se plonger dans le premier volume de votre livre, qui, je crois qu'on l'aura vu, qui est plein de surprises et qui est passionnant. Et je voudrais aussi préciser que tous les bénéfices, dites-moi si je me trompe, tous les bénéfices de la vente reviennent au Souvenir Français, qui est donc l'éditeur.
Tout à fait.
Pour aider à financer des projets pédagogiques et mémoriels dans la Nièvre.
Tout à fait, autour des thématiques principalement de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale. Et Monsieur Debroux, le président du Souvenir Français de la Nièvre, a donc créé cette petite maison d'édition, en quelque sorte. C'est le cinquième ouvrage qui est sorti. Donc il y en a d'autres qui ont concerné la Première Guerre mondiale ou la guerre d'Indochine également, dont on parle assez peu. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est le cinquième. Et puis normalement, j'espère, dans les 2 ans qui viennent, il y aura le tome 2. Qui viendra s'ajouter à cette liste.
Ah ben moi maintenant je l'attends avec impatience. Je me demande ce qu'il va y avoir dans le tome 2.
Quelles
sont les surprises que voilà. Ça nous réserve. Merci beaucoup.
Merci, nous reverrons
donc le mois prochain pour de nouvelles aventures livresques dans les studios de BAC FM.